We are delighted to
Nous sommes très heureuses de vous souhaiter la bienvenue à la réunion générale des jeunes filles de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Et nous nous faisions une joie de voir vos visages radieux et de sentir vos beaux esprits. Le président Monson, qui préside cette réunion, m'a demandé de la diriger. Je suis Hélène S. Dalton, présidente générale des jeunes filles. Nous avons l'honneur d'avoir avec nous notre prophète bien-aimé, Thomas S. Monson, ses conseillers, Henry B. Eyring et Dieter F. Eurdorf, ainsi que Russell M. Nelson et D. Todd Christopherson du Collège des Douze Apôtres, et Bruce C. Hafen et Craig C. Christensen du Collège des 70. Nous honorons ces frères et nous les remercions de leur direction inspirée de la prêtrise. Sur l'estrade se trouvent également mes conseillères que j'aime, Mary N. Cook et Anne M. Dibb. Nous sommes reconnaissantes que les présidences générales de la Société de secours et de la primaire, ainsi que les membres du Bureau général des jeunes filles, soient avec nous. Nous saluons toutes les personnes qui sont dans cette assemblée ou qui assistent à cette réunion par d'autres moyens. La musique de cette réunion sera interprétée par un chœur de jeunes filles des interrégions de Mill Creek Est, Salt Lake Cottonwood et Olympus, sous la direction de Mary Lee Webb avec Linda Margetts à l'orgue. Le chœur va maintenant chanter « Soyons l'espoir des derniers jours ». Ensuite, Elizabeth Bevan fera la prière d'ouverture.
Our Father in heaven,
notre Père céleste, nous venons devant toi au début de cette réunion avec le cœur reconnaissant pour les nombreuses bénédictions que tu nous as données. Nous sommes très reconnaissants d'être ici et nous te demandons de nous bénir pour que nous puissions être des exemples de croyantes et des témoins en tout temps. Nous te demandons de bénir le président Monson. Nous te demandons de bénir tous nos dirigeants. Nous te remercions pour ton Fils Jésus-Christ et pour son sacrifice. Nous te demandons d'être remplis de ton esprit. Nous te remercions beaucoup pour toutes ces bénédictions. Nous t'aimons et nous te faisons cette prière au nom de Jésus-Christ. Amen. Le chœur va maintenant nous faire le plaisir de chanter « Il envoya son fils aimé », accompagné par Rachel Mice du pieu de Muller Park à Bountiful, Utah, à la flûte, et Elizabeth Kigley du pieu de Keisley, Utah, au hautbois. Après quoi, Anne M. Dibb, deuxième conseillère dans la présidence générale des jeunes filles, s'adressera à nous. Après son discours, nous entendrons Mary N. Cook, première conseillère dans la présidence générale des jeunes filles. Nous regarderons ensuite une courte vidéo au sujet de jeunes filles qui se sont fixées le but d'être dignes d'entrer dans le Saint-Temple pour y faire des alliances sacrées et les respecter. Elles représentent les milliers de jeunes filles du monde entier qui choisissent de mener une vie vertueuse. Nous les remercions et nous vous remercions d'être des modèles de fidèles.
Je suis heureuse et sincèrement, je me sens toute petite d'être avec vous ce soir. C'est inspirant et magnifique de vous voir. J'espère qu'après cette soirée, ma mère ou sœur Dalton vont signer l'activité numéro 4 concernant l'idéal de la connaissance, car ce discours doit certainement remplir les conditions requises pour un discours de 5 minutes sur un sujet de l'Évangile. J'aime les jeunes filles, ainsi que le programme des jeunes filles. Lorsque j'étais une jeune fille, le programme des jeunes filles et les activités d'échange étaient importants pour moi. J'aimais mes amis, les leçons qu'on nous enseignait, les conférences de la jeunesse, les camps. Mes dirigeants m'aimaient et m'ont enseigné les vérités de l'Évangile. Ils servaient de deuxième témoin des principes de l'Évangile que mes parents m'avaient enseignés. Mes parents, mon évêque et mes chères dirigeantes des jeunes filles ont été des modèles de fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. J'ai volontiers suivi leur exemple parce que je voulais leur ressembler. En repensant à l'époque où j'étais une jeune fille, je mesure que je ne comprenais pas l'ampleur de ce qui se passait dans ma vie. Je ne me rendais pas compte que ma participation à toutes les activités de l'Église, sans exception, m'a aidé à acquérir une habitude et un engagement de toute une vie à suivre les enseignements de Jésus-Christ. Je ne comprenais pas que j'étais ainsi préparée à ma vie future de femme, d'épouse, de mère et de dirigeante. Je ne comprenais pas qu'en choisissant le bien, je respectais les alliances contractées à mon baptême. J'exerçais ma foi, j'augmentais ma vertu et me préparais à aller au temple. Je ne pouvais pas voir ça alors, mais pas à pas, je devenais une fidèle et un modèle de fidèle. Nous n'avions pas le programme du progrès personnel comme vous l'avez aujourd'hui, mais nous avions un programme pratiquement identique et comportait des occasions d'apprendre, de mettre en pratique et de faire un compte-rendu de nos progrès dans l'application des principes de l'Évangile. Récemment, j'ai eu la chance de repenser à mes expériences lorsque mon amie et mon exemple, Cathy Anderson, m'a montré son guide des abeilles. Je vais vous faire part de quelques points du manuel de Sœur Anderson qui a beaucoup servi. Soyez courtoise et attentive en classe. Soyez honnête en toutes choses. Il est important d'acquérir des connaissances à l'école, mais il est également important d'avoir de l'honneur et de l'intégrité et de ne pas être coupable de tricher. Si vous réussissez vos études, mais que votre personnalité est un échec à cause de votre malhonnêteté, vous n'avez pas appris le sens de la vérité. Numéro 3, ne faites pas de commérage et n'en écoutez pas ce mois-ci. Essayez d'en faire une habitude tout le reste de votre vie. Numéro 4,
and tell them truthfully and sincerely what you have observed. They will like you better. Remember, no apple polish.
Souvenez-vous, ni pommade, ni flatterie. Ce que je viens de lire peut paraître suranné, mais c'est la vérité. Les jeunes filles fidèles doivent être courtoises, honnêtes, parler avec gentillesse et être sincères. Ces choses peuvent paraître petites et simples, mais le prophète du Livre de Mormon, Alma, enseigne « Or, il se peut que tu penses que c'est la folie de ma part, mais voici, je te dis que c'est par des choses petites et simples que de grandes choses sont réalisées. Et de petits moyens confondent dans de nombreux cas les sages. »
Récemment, j'ai suivi nos prophètes actuels en travaillant sur le nouvel idéal du progrès personnel des jeunes filles concernant la vertu. Bien que cela semble une chose petite et simple, je témoigne que l'activité numéro 3 concernant la vertu a eu un grand impact dans ma vie. Cette activité nécessite l'étude de Alma, chapitre 5. Puis vous demande de faire la liste de ce que vous ferez pour vous préparer à entrer dans le temple et recevoir les bénédictions que notre Père Céleste a promises. En étudiant les paroles d'Alma, les nombreuses choses que je dois faire pour être compté parmi le troupeau du bon berger m'ont amené à plus d'humilité. La liste que j'ai notée dans mon journal comprend: je dois choisir d'être spirituellement né de Dieu et d'avoir mon visage empreint de son image. Je dois choisir de faire preuve de foi en la rédemption opérée par mon Créateur. Je dois choisir de sortir d'entre les méchants et d'être à part. Je dois choisir d'être dépouillé de l'orgueil et d'être suffisamment humble et de rester innocente devant Dieu. Je dois choisir de changer, me repentir et accepter l'invitation du Seigneur d'aller à lui et de prendre du fruit de l'arbre de vie. Dans mon journal, je me suis engagée à faire ce qui suit et je reconnais que certains de ces engagements reflètent mes difficultés personnelles. Lire les Écritures avec plus d'application. Être positive, ne pas me plaindre. Faire preuve de respect envers les gens et refuser de me moquer d'eux. Exprimer de la gratitude, particulièrement envers les personnes les plus proches de moi. Être plus ordonné pour favoriser la présence de l'Esprit dans mon foyer et ma vie. Me repentir, accroître mon humilité et examiner l'état spirituel de mon cœur. Appliquant les paroles d'Alma à moi, je vais changer. Je choisirai d'accroître mon engagement d'être exemplaire. Du fait que j'ai participé à cette activité petite et simple du progrès personnel, mon témoignage des prophètes et mon engagement de suivre Jésus-Christ se sont beaucoup intensifiés. L'accomplissement de ce but m'a préparé à être plus réceptive à l'Esprit la prochaine fois que je suis allée à l'Église et au Temple. Chaque fois que je relis ce que j'ai écrit dans mon journal, je ressens l'Esprit et je me souviens de ce que j'ai ressenti à la table de ma cuisine. Alma, chapitre 5, est maintenant l'un de mes chapitres favoris. J'ai réellement reçu de nombreuses bénédictions en accomplissant cette activité du progrès personnel. Plus tôt, j'ai parlé de Sœur Andersen et de son guide des abeilles. Elle est la femme de Neil L. Andersen, de la présidence des 70, une mère et une grand-mère. Je suis touchée par le fait que, bien qu'elle ait déménagé de très nombreuses fois, elle a toujours su où trouver le livre et la banderole d'accomplissement. Sœur Andersen a soutenu son mari et a enseigné l'Évangile dans le monde entier. Elle a été un exemple de féminité et de bonté en tant que membre fidèle de l'Église. À 11 ans, Sœur Andersen avait hâte de commencer le programme des jeunes filles. Lorsque son anniversaire est enfin arrivé, elle a reçu le guide des abeilles. Sœur Andersen explique: au début du livre, il était écrit: en tant qu'abeille et pour le reste de ta vie, fixe-toi des buts élevés. Je savais que ça allait être une grande aventure. J'ai emporté mon guide chez moi et l'ai immédiatement lu du début à la fin pour voir quel but j'allais devoir accomplir au cours des 2 années suivantes. J'ai découvert qu'il y avait 80 buts parmi lesquels choisir. Dans mon enthousiasme, j'ai décidé que si je faisais beaucoup d'efforts, je pourrais accomplir tous les buts de mon guide. En fait, tous sauf un, celui d'aller au temple et de me faire baptiser pour les morts. Je ne pouvais pas me faire baptiser pour les morts, car il n'y avait pas de temple en Floride. Sœur Andersen a décidé d'en parler à son père. Elle continue dans sa lettre: mon père n'a hésité qu'un instant. Nous n'avions aucune autre raison d'aller en Utah. Il m'a dit en réfléchissant: Cathy, si tu accomplis tous les autres buts de ton guide des abeilles, nous irons avec toi au temple de Salt Lake City. J'ai travaillé au but de mon guide des abeilles pendant 2 ans et accompli 79 buts. Mon père a travaillé pendant ces 2 ans pour mettre de côté assez d'argent pour faire le voyage jusqu'au temple. Mon père a tenu la promesse qu'il m'avait faite. Un voyage en avion à cette époque étant trop cher pour notre famille, nous avons donc parcouru 8000 km en voiture aller-retour jusqu'à Salt Lake City. J'ai ressenti une grande joie lorsque je suis entrée dans le temple de Salt Lake et j'ai été baptisée par procuration par mon père. Je serai éternellement reconnaissante que ma mère et mon père aient été prêts à faire du temple une part importante de ma vie. Ils avaient compris avec sagesse qu'à mesure que je travaillerai à mes buts des jeunes filles, ma foi augmenterait. La foi de mes parents et leur sacrifice ont eu un impact considérable sur moi et les générations qui ont suivi. Lorsqu'elle était jeune fille, Sœur Anderson s'était forcée de faire des choses petites et simples qui l'aideraient à devenir une femme exemplaire, une fidèle exemplaire. Et c'est ce qu'elle est devenue. Chacune d'entre vous a cette même possibilité. Les choses petites et simples que vous choisissez de faire aujourd'hui deviendront des bénédictions grandes et glorieuses demain. Le fait de vivre chaque jour en fidèle exemplaire vous aidera à être heureuse et avoir plus confiance. Cela fortifiera votre témoignage, vous aidera à respecter les alliances de votre baptême et vous préparera à recevoir les bénédictions du Temple afin que vous puissiez retourner un jour auprès de votre Père céleste. Puissions-nous tous nous efforcer d'être un fidèle exemplaire. Puissions-nous vivre l'Évangile de Jésus-Christ et accomplir tout ce qui nous est demandé. Et puissions-nous faire ces choses avec foi, sans faiblir, le cœur pur et vertueux. C'est là ma prière sincère et humble. Au nom de Jésus-Christ, amen.
L'un des moments les plus merveilleux de la vie d'une mère, c'est quand on lui met son nouveau-né dans les bras et qu'elle se rend compte que cet esprit pur vient d'arriver d'auprès de notre Père céleste. C'est un tendre rappel que nous sommes les filles de notre Père céleste et que lorsqu'un enfant vient de quitter sa présence, il arrive sur terre pur et prêt à apprendre et à progresser. Quand j'habitais loin de chez moi pour faire mes études, j'ai reçu le jour de la fête des mères une lettre de ma mère qui me racontait cette touchante expérience. Ce jour de la fête des mères est très particulier parce que cela fait 21 ans que je suis ta mère et que cela a été une véritable bénédiction. Nous avons eu le sentiment que tu étais spéciale. Nous t'avons donné le nom de Marie. Nous voulions que tu restes pure et douce comme ce nom le suggère. Ta tante qui porte le même nom t'aimait énormément et elle t'a confectionné à la main une superbe robe toute petite pour ta bénédiction, pour que tu puisses recevoir un nom à la toute première réunion de Sansen après ton arrivée à la maison. Tu étais si minuscule. En lisant cette lettre, je me suis rendu compte que le plus grand espoir de ma mère était que je reste pure et vertueuse. La vertu est un mode de pensée, de conduite, basé sur des principes moraux élevés. Elle savait que la vie serait difficile et qu'il serait difficile de rester vertueuse toute une vie. Elle voulait que je reçoive les bénédictions de l'Évangile pour me guider et elle m'y a aidée. Vous avez, mes chères jeunes filles, déjà fait beaucoup de bons choix. Vous devez maintenant prendre des habitudes de vertu qui vous permettront de rester sur ce chemin toute votre vie. Recherchez des modèles de fidèles qui pourront être à vos côtés pour vous soutenir et vous aider à mener une vie vertueuse. Pourquoi est-il si important, non seulement pour nos parents terrestres, mais aussi pour notre Père céleste, que nous soyons vertueuses? La vertu apporte la paix, la force de caractère et le bonheur dans cette vie. Notre Père céleste savait que nous allions faire face à beaucoup de choix et à de nombreuses difficultés et qu'une vie vertueuse nous préparait à réussir. Pour beaucoup d'entre vous, le jour de votre bénédiction était la première étape de votre vie vertueuse. votre choix du baptême, de la confirmation et de la réception du don du Saint-Esprit, ainsi que vos efforts pour prendre dignement la Sainte Cène et renouveler votre alliance du baptême chaque semaine sont des étapes très importantes pour mener une vie vertueuse. L'étape suivante consiste à vous préparer à être digne d'aller au temple, où vous ferez d'autres alliances sacrées et où vous recevrez les ordonnances sacrées du temple, dont celle du mariage céleste. Cela exigera que vous soyez vertueuse. La jeunesse est une période décisive où vous pouvez acquérir des habitudes de vertu qui vous aideront à franchir les étapes nécessaires pour parvenir à la vie éternelle. Dans la vision bien connue rapportée dans 1 Éphi chapitre 8, il nous est rappelé combien il est difficile de rester sur le chemin étroit et resserré qui mène à la vie éternelle. Léhi a décrit à ses fils les difficultés rencontrées par différents groupes de gens qui cherchaient l'arbre de vie dont le fruit était désirable pour rendre heureux. Cet arbre représentait l'amour de Dieu. Les gens du premier groupe se sont engagés sur le chemin étroit et resserré, mais ils n'ont pas saisi la barre de fer qui les aurait aidés à y rester, et ils se sont perdus dans le brouillard de ténèbres. Certains de ces brouillards de ténèbres ou tentations que Satan utilise pour obscurcir le chemin menant à la vie éternelle sont spécifiquement conçus pour les femmes. Satan donne à la chasteté et à la pureté morale un aspect démodé. Il a rendu la maternité moins importante aux yeux des gens. Il a réussi à ce que les femmes ne comprennent plus leur rôle dans le plan divin du Seigneur. Pour franchir ces brouillards de ténèbres, nous avons besoin de la barre de fer qui représente la parole de Dieu. Nous devons étudier et comprendre les vérités et les commandements énoncés dans les Écritures. Nous devons écouter attentivement les paroles de nos prophètes des derniers jours, dont les enseignements vont nous guider et nous protéger. Et nous devons respecter les principes énoncés dans Jeûne, soyez forts. Les gens du deuxième groupe que Léhi a vu étaient agrippés à la barre de fer. Ils ont continué à avancer dans la bonne direction et ils ont pu prendre du fruit de l'arbre. Ils ont goûté au vrai bonheur, mais malheureusement, leur bonheur n'a pas duré, parce qu'en regardant autour d'eux, ils ont vu des gens qui se moquaient d'eux. Ils ont eu honte et ont cédé à la pression de l'entourage. C'est l'une des principales tactiques de Satan face aux jeunes. Jeunes filles, vous devez être unies en droiture pour pouvoir rester fortes quand des gens se moquent de vos actes et de vos croyances. Une des manières de résister aux pressions du monde est de se tenir en des lieux saints et de ne pas se laisser ébranler. Restez éloignés des situations où vous serez vraisemblablement l'objet de tentations ou de moqueries. L'engagement de rester vertueuse vous donnera la force de résister à la pression du groupe. Comme cela nous est conseillé dans Jeunes soyez forts, ayez le courage de quitter un film ou une soirée vidéo, d'éteindre l'ordinateur ou la télévision, de changer de station de radio ou de fermer un magazine, si ce que l'on vous présente ne correspond pas aux normes fixées par notre Père Céleste. Nous devons éviter tout ce qui est inconvenant sur l'Internet ou sur les téléphones portables, ainsi que la musique agressive et les dents suggestives. On se moquera peut-être de vous, on vous montrera peut-être du doigt, vous devrez peut-être rester seul, mais s'il vous plaît, ayez le courage de résister à ces tentations. Léhi a finalement vu les gens qui ont réussi à tenir continuellement avec fermeté la barre de fer. Qu'est-ce qui vous aidera à aller résolument de l'avant et à tenir continuellement cette barre de fer? Centrez votre vie sur le Sauveur. Apprenez à connaître et découvrez tout ce qu'il a fait pour vous. Le dernier groupe est arrivé à l'arbre de vie et les gens se sont laissés choir. Ils étaient humbles. Ils avaient confiance qu'ils n'auraient pas pu y arriver sans le Seigneur. Rappelez-vous que c'est le pouvoir purificateur de l'expiation qui nous donne la possibilité d'être vertueuse. Nous commettons tous des fautes, mais parce que le Sauveur nous aime et a donné sa vie pour nous, nous pouvons nous repentir. Le repentir est un acte de foi en Jésus-Christ. Grâce au sacrifice expiatoire du Sauveur, vous pouvez recevoir le pardon de vos péchés. Décidez de prendre dignement la Sainte Cène chaque semaine et de remplir votre vie d'activités vertueuses qui vous donneront de la force spirituelle. Ainsi, votre capacité de résister à la tentation, de respecter les commandements, de rester pur et de devenir semblable à Jésus-Christ grandira. Des habitudes quotidiennes de bonne conduite vous aideront aussi à tenir fermement et continuellement la barre de fer. En tant que présidence générale des jeunes filles, nous avons demandé à toutes les jeunes filles de partout dans le monde de prendre 3 habitudes quotidiennes. Premièrement, prier notre Père Céleste matin et soir, tous les jours. Deuxièmement, lire le livre de Mormon tous les jours pendant au moins 5 minutes. Et troisièmement, sourire. Pourquoi ? Nous avons l'évangile rétabli de Jésus-Christ qui nous apporte le vrai bonheur. Vous devez vous souvenir que vous n'êtes pas seul pour ce voyage. Lorsque vous vous êtes fait baptiser et confirmer, vous avez reçu le don du Saint-Esprit pour vous guider dans tous les domaines de votre vie. Vous en aurez besoin. En menant une vie vertueuse, en tout temps et en toutes choses et dans tous les lieux, nous avons droit à la compagnie constante du Saint-Esprit. Vous avez peut-être parfois le sentiment d'être la seule à suivre ce chemin. Tout comme des êtres chers vous ont entouré quand vous êtes venu dans ce monde, il y a maintenant de nombreuses personnes qui peuvent exercer une bonne influence sur vous. Vos parents, frères et sœurs, dirigeants des jeunes filles, vos dirigeants de la prêtrise, de bons amis, et même des anges seront tout autour de vous pour vous soutenir. Cherchez ce soir les personnes qui peuvent vous aider. Ce sont des amis qui tiennent fermement la barre de fer malgré ce que dit le monde, qui connaissent la parole de Dieu et les paroles de ses prophètes et qui les appliquent, qui se tiennent en des lieux saints et ne se laissent pas ébranler par les pressions du monde, qui centrent leur vie sur le Sauveur et sur son sacrifice expiatoire et qui s'efforcent quotidiennement de mener une vie juste. Ce sont des exemples de fidèles. Suivez leur exemple et vous, jeunes filles, vous pourrez être des exemples de fidèles pour eux et pour d'autres. Je vais vous parler d'un très bon exemple. Il s'agit d'Hilary, une abeille qui habite à Lagos au Nigeria. Des camarades de sa classe se moquaient de ses principes, particulièrement de ses vêtements pudiques. Elle a pris la décision de toujours avoir sur elle 2 petits exemplaires de jeunes, soyez forts. Quand quelqu'un l'embête, elle lui tend un des exemplaires et explique les principes qu'il contient et pourquoi elle les suit. Elle garde l'autre exemplaire pour toujours se souvenir de respecter ses principes. Nous devons être unis et nous aider mutuellement à remplir notre vie de tout ce qui est vertueux ou aimable, de tout ce qui mérite l'approbation. Nous invitons toutes les jeunes filles, les mères et en fait toutes les femmes qui désirent se joindre à nous dans la cause de la vertu, à réaliser les nouvelles activités et le nouveau projet correspondant à l'idéal de la vertu dans le progrès personnel. Il y a quelques semaines, j'ai demandé à ma mère, qui a 86 ans, de travailler avec moi à l'idéal de la vertu. Cela a été une bénédiction pour toutes les deux. Tandis que nous réalisions les activités, elle m'a dit que lorsqu'elle était jeune fille, dans les années 30, elle avait pris la décision de s'efforcer de mener une vie plus vertueuse. Nous avons étudié ensemble les Écritures sur la vertu, la Déclaration au monde sur la famille et même « Jeune, soyez fort ». Nous avons chacune écrit dans notre journal les bénédictions que nous avons reçues en nous efforçant de mener une vie vertueuse. Une bénédiction clé que nous avons toutes les deux identifiée est celle d'être digne d'aller au temple. Jeune fille, c'est votre prochaine étape. Tout comme il a fallu 40 ans pour construire le temple de Salt Lake City, pierre par pierre, vous édifiez une vie vertueuse étape par étape. Vous avez fait alliance d'être obéissante, vous avez fait des bons choix. Les habitudes de vertu que vous prenez maintenant vous aideront à tenir continuellement et fermement la barre de fer. Vous ne serez jamais seul sur votre route parce que le Sauveur sera toujours avec vous et vous pouvez vous repentir. Vous avez la bénédiction d'avoir le Saint-Esprit pour vous consoler et vous guider. Tournez-vous vers les exemples de fidèles qui vous entourent et cherchez à aider d'autres personnes sur l'autre route. Je témoigne que nous sommes les filles de notre Père Céleste. Il nous aime et il se soucie de chacune de nous, quelle que soit notre situation. Que nous ayons 16 ou 86 ans, son plus grand désir est notre bonheur éternel. J'en témoigne humblement. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Je pense que quand on est bébé, on est si innocent et si pur.
J'ai été adoptée par une famille merveilleuse et nous avons eu la possibilité d'être scellés ensemble au temple. Et voici ma première robe blanche que j'ai portée pour ma bénédiction de bébé et au temple.
J'ai été la première de ma famille à être baptisée.
Pour mon baptême, je portais une robe blanche.
J'ai senti vraiment que j'étais pure et qu'à présent, j'étais parfaite et plus proche de Dieu que jamais.
Quand on est baptisé, ça nous redonne notre pureté. Je pense que c'est pour ça qu'on est en blanc.
Je portais une robe blanche quand j'ai été baignée étant bébé, puis à mon baptême. Et mon but est de porter une robe blanche au temple quand je serai en âge de me marier.
Nous sommes les filles de notre Père Céleste qui nous aime et que nous aimons.
La vertu, c'est être pur, spirituellement, physiquement.
Pour moi, la vertu, c'est se garder moralement pur. Et cela comprend être sexuellement pur. Je pense aussi que cela comprend avoir l'esprit et des pensées pures.
Quand on ira au ciel et que le Seigneur nous dira qu'on a été une fille vertueuse et un exemple de fidèle, ce sera formidable.
Nous serons les témoins de Dieu en tout temps, en toutes choses et dans tous les lieux, en nous efforçant d'atteindre les idéaux des jeunes filles qui sont la foi
et soyez un modèle de fidèle,
la nature divine
en parole,
la valeur personnelle
en conduite,
la connaissance
en charité,
le choix et la responsabilité
en esprit,
le dévouement
en foi,
l'intégrité
en pureté
et la vertu.
Je sais que pour me marier au temple, je dois être vertueuse et pure.
Quand nous menons une vie vertueuse, le monde nous dit qu'être vertueux nous limite et nous empêche de faire autant de choses. Mais en réalité, c'est une grande liberté, parce que c'est nous qui le choisissons.
La vertu et le Saint-Esprit vont de pair. Quand on est vertueux, on a la compagnie du Saint-Esprit pour nous diriger, nous guider et nous réconforter. Il ne fait pas de doute qu'il est toujours là quand on est vertueux.
Nous croyons qu'en acceptant et en pratiquant ces idéaux, nous nous préparerons à fortifier le foyer et la famille.
C'est ce que je veux le plus. C'est mon plus profond désir, avoir une famille éternelle.
C'est très bien d'avoir des sœurs aînées qui sont des exemples pour moi.
Et nous serons toujours ensemble pendant toute l'éternité.
À faire et à garder des alliances sacrées.
Cela me rappelle le temple, mon but et mon baptême, les alliances que j'ai faites avec mon Père Céleste et Jésus-Christ.
Et à recevoir les ordonnances du temple.
La vertu signifie qu'il faut être une femme pure, qu'il faut avoir des principes et être toujours pure afin de pouvoir à tout moment entrer dans le temple.
L'esprit était très fort, je l'ai ressenti. J'ai décidé de rester vertueuse afin de pouvoir m'y marier.
Pour moi, la vertu, c'est vivre comme le Christ le ferait. Pas toujours être parfaite, mais se servir de l'expiation pour devenir parfaite.
Et recevoir les bénédictions de l'exaltation.
La vertu est une condition préalable pour entrer dans les saints temples du Seigneur et recevoir les inspirations du Saint-Esprit. Je crois vraiment qu'une jeune fille ou un jeune homme vertueux conduit par l'Esprit peut changer le monde. Mais pour y parvenir, nous devons retourner à la vertu.
Nous sommes des filles de notre Père Céleste.
Il nous aime.
Et nous l'aimons.
Et il veut que nous soyons vertueuses.
J'espère que vous vous souviendrez toujours de ce que vous avez ressenti ce soir. Je vais maintenant avoir le plaisir de vous faire un discours. Ensuite, le chœur chantera « Adonne-moi, Père » avec Julia Marshall du pieu de Mill Creek Est, Salt Lake City, au violoncelle. L'une des questions qu'on me pose le plus souvent est comment une mère de 5 garçons et d'une seule fille peut être présidente générale des jeunes filles? Ma réponse est toujours la même. C'est parce que j'ai une fille parfaite et que je connais tous les secrets des garçons. Mes fils m'ont donné la permission de vous révéler ce soir l'un de leurs secrets. Le voici. Les jeunes gens vertueux sont attirés par les jeunes filles vertueuses. Si vous demandez à des jeunes gens, avant qu'ils partent en mission, quelle est la première qualité qu'ils recherchent chez une jeune fille, ils vous diront peut-être une qualité basée sur la norme du monde, par exemple, la beauté. Mais après 2 ans de mission, quand ces mêmes jeunes gens rentrent chez eux, ils ont changé. Leurs priorités ont changé. Et la première qualité qu'ils recherchent chez une compagne éternelle a changé, sans que vous vous en soyez aperçu. À son retour, un jeune homme vertueux est attiré par une jeune fille vertueuse. Une jeune fille qui a le témoignage de Jésus-Christ et qui a pris l'engagement de mener une vie de pureté. Quelle est la cause de ce grand changement de cœur? Ces jeunes gens comprennent leur identité et leur rôle dans le plan du bonheur. Ils se sont purifiés de manière à avoir la compagnie constante du Saint-Esprit. Ils sont dignes d'entrer dans les saints temples du Seigneur. Ils sont vertueux. Il n'est pas étonnant que les Écritures nous disent de joindre à notre foi la vertu, car ceci est vrai. La vertu aime la vertu. La lumière s'attache à la lumière. Paul a conseillé à Timothée, son jeune ami, d'être un modèle pour les fidèles, en pureté. Ce soir, je reprends les paroles de Paul, car la vertu est la pureté. Comme vous vous en souvenez, il y a presque 1 an, notre président s'est monté sur une montagne pour déployer une bannière dorée appelant au retour à la vertu. Nous avons appelé les jeunes filles et les femmes du monde entier à se lever et à briller comme une bannière pour les nations. Par la suite, l'idéal de la vertu a été ajouté au thème des jeunes filles et à mon progrès personnel, afin qu'il soit écrit dans votre cœur. Cet ajout a été fait pour vous et pour votre époque, et il a été inspiré par les paroles et les enseignements des prophètes, voyants et révélateurs. Bodka Packer a dit, « Rien dans l'histoire de l'Église ou dans l'histoire du monde n'est comparable à la situation actuelle. Il n'y a rien de pire que la dépravation qui nous entoure maintenant. Jamais auparavant, le besoin de vertu et de pureté ne s'est fait autant sentir dans le monde. Nous avons donné une couleur symbolique à la vertu, comme pour les autres idéaux. La couleur de la vertu est l'or, parce que l'or est pur. Il brille. Il est doux, non criard ni tapageur. Il est précieux. L'or doit être raffiné. Si vous menez une vie pure et vertueuse, vous serez raffiné par les expériences de la vie. Et si vous vous confiez en l'Éternel et vous approchez de lui, il transformera votre cœur en or. Que signifie retourner à la vertu? Nous appelons à un retour à la pureté morale et à la chasteté. La vertu est la pureté. La vertu est la chasteté. Le mot « vertu » est également défini comme une intégrité et une excellence morale, un pouvoir et une force. L'essence d'une vie vertueuse est la pureté sexuelle. Mais pourtant, cette définition a presque été effacée par le monde. Le prophète mormon a enseigné que la chasteté et la vertu sont ce qu'il y a de plus cher et de plus précieux. Elles vont ensemble. On ne peut pas avoir l'une sans l'autre. et nous croyons que nous devons être vertueux. Pour être vertueuse et le rester, vous devez être fidèle à votre identité divine et avoir un mode de pensée et de conduite basé sur des principes moraux élevés. Ces principes sont éternels, ils ne changent pas. Les prophètes de Dieu les enseignent. Dans un monde rempli de vérités relatives, les principes du Seigneur sont absolus. Ils sont donnés à chacun d'entre nous pour nous permettre de rester sur le chemin qui nous ramène dans la présence de notre Père céleste et de son Fils, Jésus-Christ. Dans la section 25 des Doctrines Alliance, le Seigneur recommande à chacune de ses filles bien-aimées, à vous et moi, de marcher dans les sentiers de la vertu. Vous n'êtes pas ordinaire. Vous sortez du commun. Vous êtes fille de Dieu. Vous portez en vous le pouvoir sacré de créer la vie. C'est l'un des plus grands dons de Dieu à ses filles de valeur. Et vous devez protéger ce pouvoir en respectant les principes et en restant vertueuse. Vous devez protéger votre pouvoir par la pureté de pensée et d'action. Ce faisant, vous, votre famille et les générations à venir serez fortifiés et bénis. Brigham Young a enseigné que la force de Sion réside dans la vertu de ses fils et de ses filles. Vous devez protéger votre propre vertu et aider les autres à être à la hauteur de la divinité qui est en eux. Dans tous les sens du terme, vous êtes une gardienne de la vertu. David O. Mackay a enseigné qu'une femme doit être la reine de son propre corps. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Je vous pose à chacune cette question. Si nous ne défendons pas la vertu, qui le fera? Récemment, j'ai entendu parler d'un groupe de jeunes filles du Pérou qui avait gravi une montagne et déployé sa propre bannière au monde. En Virginie, un autre groupe de jeunes filles et leurs dirigeantes ont écrit leurs témoignages et, comme celle du Pérou, ont déployé leur bannière au monde. J'ai reçu des photos de beaucoup d'entre vous, de Californie jusqu'au Costa Rica, qui avaient pris l'engagement de rester vertueuses et qui marchaient à la tête du monde dans un retour à la vertu. Quand j'étais adolescente, mes dirigeantes des jeunes filles ont demandé à chacune de nous de choisir un symbole qui représenterait la vie que nous mènerions et ce que nous nous efforcerions de devenir en tant que filles de Dieu. Nous avons ensuite cousu ces symboles au sac de toile que nous portions en bandoulière. Ce sac était pour nous notre bannière au monde. J'ai choisi la rose blanche comme symbole, parce que la rose devient de plus en plus belle à mesure qu'elle s'épanouit. Et j'ai choisi le blanc pour la pureté. Je vous incite toutes à réfléchir à ce que serait votre bannière si vous pouviez donner un seul message au monde. Il y a des années, ma fille, deux amis et moi avons fait une randonnée dans la chaîne des Tetons. À la recherche d'aventures, nous avons demandé au garde forestier s'il avait un chemin que peu de gens connaissaient. Il nous a parlé d'un chemin peu marqué qui nous ferait traverser des prairies, des ruisseaux et des terrains caillouteux et nous emmènerait jusqu'à un lac immaculé, puis à notre destination finale, une grande falaise appelée The Wall. Nous étions partantes. Il nous a indiqué les grandes directions et ajouté « Restez sur la montagne, n'allez pas dans les massifs de saules. C'est là que se trouvent les ours. Cherchez les cairns qui vous indiqueront le chemin. » Les cairns sont des repères respectueux de l'environnement, formés de pierres posées l'une sur l'autre. Nous avons commencé tôt le lendemain matin. Par un temps, nous étions dans les massifs de saules, ce qui ne nous rassurait pas du tout. Nous avons ensuite vu notre premier cairn plus haut sur la colline et nous y sommes montés. Nous avons marché de cairn en cairn. Nous avions parfois l'impression d'être perdus parce que nous faisions de très longues distances avant de voir un autre cairn. Mais à notre grand soulagement, nous en voyons un et tout rentrait dans l'ordre. Nous avons atteint un immense champ caillouteux et nous avons dû nous aider mutuellement à nous hisser au sommet de chaque roche, nos sacs à dos et nous. C'était très difficile, mais le soir, nous avions atteint le beau lac immaculé. C'est là que nous avons tressé notre tente. Nous avions une vue magnifique dans toutes les directions. la randonnée ardue en valait la peine. Cependant, de bon matin, je me suis réveillée au son d'un vent bruyant. Un brouillard était descendu sur le lac, ce qui rendait la vue quasiment impossible dans toutes les directions. Nous avons rangé notre tente et notre sac de couchage et nous avons commencé à contourner le lac. Et nous avons entrepris notre ascension vers notre destination de Wall. J'étais vraiment contente d'être arrivée à cette falaise. Nous l'étions toutes. Nous avons escaladé le grand mur de granit et nous l'avons embrassé. Nous étions arrivés. Le chemin de la vertu. J'appelle les jeunes filles de l'Église à se lever et à retourner à la vertu. À la manière d'Ésaïe, je vous dis, allez à la montagne de l'Éternel, afin que la montagne de la maison de l'Éternel soit fondée. Le chemin de la vertu est moins fréquenté. Il vous emmènera dans les prairies et les ruisseaux, près des lacs immaculés de la vie, et même sur les terrains caillouteux. Il nous faudra nous aider les unes les autres pour y arriver. Il se peut que le chemin soit ardu, mais si nous sommes disposés à l'emprunter, les récompenses seront éternelles. En chemin, ne descendez pas dans les massifs de saules. Restez sur les hauteurs. Vous êtes les filles précieuses de Dieu. Du fait de notre connaissance de notre divinité, tout doit être différent pour nous. Notre tenue vestimentaire, notre langage, nos priorités, notre engagement. Nous ne devons pas chercher conseil auprès du monde. Et si notre véritable identité a été entachée par des erreurs ou des péchés, nous pouvons changer. Nous pouvons faire demi-tour, nous repentir et retourner à la vertu. Nous pouvons monter au-dessus des saules. L'expiation du Sauveur est pour vous et pour moi. Il invite chacune de nous à aller à lui. Votre vie vertueuse vous donnera la confiance, le pouvoir et la force nécessaires pour monter. Vous aurez également la compagnie constante du Saint-Esprit. Suivez les inspirations que vous recevez. Réagissez en conséquence. Comme les cairns sur un sentier moins fréquenté, le Saint-Esprit vous montrera tout ce que vous devez faire. Il vous instruira et témoignera du Christ, dont les pas ont marqué le chemin.
But will also enable you to make the decisions that will help you be worthy to enter the temple and there make and keep sacred covenants and receive the blessings of exaltation.
Prepare yourself spiritually
and préparez-vous spirituellement. Entrez dans la présence de notre Père céleste. Préparez-vous maintenant pour le temple, la maison du Seigneur. Ne perdez jamais de vue le but du temple. Entrez dans la présence en pureté, en vertu, et recevez ses bénédictions. Oui, tout ce qu'il a. Dans sa sainte maison, vous serez purifiés, instruits et dotés de pouvoir, et ses anges vous garderont. Nous devons savoir que, comme Winston Churchill l'a dit, à un moment critique de la Deuxième Guerre mondiale, chaque homme et chaque femme rencontre un jour un moment où, pour parler au figuré, on lui tape sur l'épaule et la chance lui est donnée d'accomplir quelque chose d'unique et qui lui correspond spécialement. Quelle tragédie si, à ce moment-là, il n'est pas préparé ou n'est pas qualifié pour l'œuvre qui devait être son heure d'accomplissement. Nous sommes à une époque critique. On vous tape sur l'épaule en ce moment. Vous vous préparez maintenant pour l'œuvre qui sera votre œuvre, votre heure d'accomplissement. Vous vous préparez maintenant pour l'éternité. L'an dernier, j'ai été appelée comme présidente générale des jeunes filles. Lorsque je m'apprêtais à quitter le bureau du président Monson, il a tendu la main vers un bouquet de roses blanches dans un vase, a pris l'une d'entre elles et me l'a tendue. À l'instant même, j'ai su pourquoi il le faisait. J'ai repensé à l'époque où j'étais jeune fille, quand j'avais choisi la rose blanche comme symbole de pureté, comme ma propre bannière. Comment le président Monson pouvait-il le savoir? J'ai rapporté cette précieuse rose chez moi. Je l'ai mise dans un beau vase en cristal et j'ai placé sur une table pour la voir tous les jours. Chaque jour, cette rose me rappelait l'importance de ma propre pureté et vertu, et je me souvenais de vous. À mesure que vous vous épanouirez, votre pureté vous permettra d'être une force bénéfique et d'avoir une influence juste sur le monde. Je pense vraiment qu'une seule jeune fille vertueuse, guidée par l'Esprit, peut changer le monde. Je prie pour que ce soit votre but et le désir de votre cœur. Puissiez-vous être béni dans vos efforts pour rester vertueuse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Merci à vous, jeunes filles du chœur, de nous avoir instruites par vos paroles et votre musique inspirante. Nous remercions sincèrement toutes les personnes qui ont pris la parole ou interprété la belle musique de ce soir. Nous allons maintenant avoir l'honneur d'entendre notre prophète bien-aimé, Thomas S. Monson. Après le discours du président Monson, le chœur et l'assemblée chanteront « Vas-tu faiblir aux jeunesses ?» Ensuite, Munza Bokeri fera la prière de clôture.
President Monson.
Frère Monson.
My dear young sisters,
mes chères jeunes sœurs, qu'il est agréable de vous regarder. Je sais que, par-delà ce magnifique centre de conférence, des milliers de personnes sont assemblées dans des églises et d'autres bâtiments dans une grande partie du monde. Je prie pour avoir une aide céleste, tandis que je saisis cette occasion de m'adresser à vous. Nous avons entendu des messages opportuns et inspirants de la part de vos dirigeantes générales des jeunes filles. Ce sont des femmes de choix, appelées et mises à part, pour vous guider et vous instruire. Elles vous aiment, tout comme je vous aime. Vous êtes venus sur cette terre à une époque glorieuse. Les possibilités qui s'offrent à vous sont presque illimitées. Vous vivez quasiment toutes dans un foyer confortable, entouré de l'amour de votre famille, avec assez de nourriture et de vêtements. En plus de cela, la plupart d'entre vous ont accès à des progrès technologiques étonnants. Vous communiquez par téléphone portable, message texte, messagerie instantanée, messagerie électronique, blog, Facebook et d'autres moyens semblables. Vous écoutez de la musique sur votre iPod et votre lecteur MP3. Cela ne représente bien sûr qu'une petite partie des technologies qui sont à votre disposition. Tout cela est un peu intimidant pour quelqu'un comme moi, qui a grandi lorsque les radios étaient généralement de grands modèles que l'on posait sur le sol, qui n'avaient presque pas de téléviseur et encore moins d'ordinateur et de téléphone portable. En fait, quand j'avais votre âge, la ligne téléphonique était le plus souvent partagée. Dans notre famille, si nous voulions passer un appel téléphonique, nous devions décrocher le combiné et écouter d'abord si notre famille utilisait déjà la ligne, car plusieurs familles se partageaient la même ligne. Je pourrais passer toute la soirée à parler des différences entre ma génération et la vôtre. Il suffit de dire que beaucoup de choses ont changé depuis que j'ai eu votre âge. Et aujourd'hui, nous vivons une époque remarquable où les possibilités abondent, mais vous rencontrez également des difficultés qui sont propres à notre époque. Par exemple, les outils technologiques même dont j'ai parlé donnent à l'adversaire des occasions de vous tenter et de vous prendre dans sa toile de tromperie, dans l'espoir de prendre possession de votre destinée. En considérant tout ce à quoi vous faites face aujourd'hui, un mot me vient à l'esprit. Il décrit une qualité dont nous avons tous besoin, mais dont vous avez particulièrement besoin à cette époque de votre vie et dans ce monde. Cette qualité est le courage. Ce soir, je vais vous parler du courage dont vous aurez besoin dans trois aspects de votre vie. Premièrement, le courage de vous abstenir de juger les autres. Deuxièmement, le courage d'être chaste et vertueuse. Et troisièmement, le courage de défendre la vérité et la justice. Je vais d'abord parler du courage et de s'abstenir de juger les autres. Vous pouvez vous demander, est-ce que cela demande vraiment du courage? Je répondrai qu'il y a, selon moi, de nombreux cas où il faut du courage pour ne pas juger ou faire des commérages et critiquer ce qui s'y apparente. Malheureusement, certaines personnes jugent nécessaire de critiquer et de rabaisser les autres. Vous vous êtes sans doute déjà retrouvé parmi ce genre de personnes et vous le serez encore. Mes chers jeunes amis, nous n'avons pas à nous demander ce que nous devons faire dans ces cas-là. Dans le sermon sur la montagne, le Sauveur a dit, ne jugez point. Plus tard, il a déclaré, cessez de vous critiquer les uns les autres. Il vous faut vraiment du courage pour vous abstenir de critiquer ou de juger quand vous êtes entouré par des camarades qui vous poussent à le faire. J'irais même jusqu'à dire qu'il y a des jeunes filles autour de vous qui sont souvent laissées de côté à cause de commentaires blessants et de critiques. On dirait que nous avons tendance, particulièrement à votre âge, à éviter les personnes qui peuvent paraître différentes ou à ne pas être gentilles avec elles si elles n'entrent pas dans le moule de ce que nous ou d'autres personnes pensons qu'une personne doit être. Le Sauveur a dit, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Mère Teresa, religieuse catholique qui a œuvré en Inde parmi les pauvres pendant la plus grande partie de sa vie, a énoncé cette vérité. Si tu juges les gens, tu n'as pas le temps de les aimer. Une amie m'a raconté l'expérience qu'elle a eue il y a de nombreuses années quand elle était adolescente. Dans sa paroisse, une jeune fille appelée Sandra avait eu un accident à la naissance qui l'avait quelque peu handicapée mentalement. Elle désirait vivement être intégrée parmi les autres jeunes filles, mais elle avait l'air handicapée. Ses actions étaient celles d'une personne handicapée. Ses vêtements n'étaient jamais bien coordonnés. Elle faisait parfois des commentaires mal à propos. Elle assistait aux activités d'échange, mais il revenait toujours à l'instructrice de lui tenir compagnie et de l'aider à se sentir la bienvenue et appréciée parce que les jeunes filles ne le faisaient pas. Il s'est alors produit quelque chose. Une jeune fille du même âge a emménagé dans la paroisse. Nancy était mignonne, rousse, sûre d'elle. Elle était appréciée par tous et s'intégrait facilement. Toutes les jeunes filles voulaient être son amie, mais celle-ci ne limitait pas son amitié à certaines personnes. En fait, elle s'est donné la peine de se lier d'amitié avec Sandra et de s'assurer qu'on ne la mettait jamais à l'écart. Nancy semblait sincèrement apprécier Sandra. Bien sûr, les autres filles en ont pris note et ont commencé à se demander pourquoi elles ne s'étaient jamais liées d'amitié avec Sandra. Cela semblait maintenant non seulement acceptable, mais aussi souhaitable. Elles ont commencé à se rendre compte de ce que Nancy, par son exemple, leur enseignait. Sandra était une fille précieuse de notre Père Céleste. Elle pouvait apporter quelque chose. Elle méritait qu'on la traite avec amour et gentillesse et qu'on lui porte une attention positive. Quand Nancy et sa famille ont déménagé environ un an plus tard, Sandra faisait à présent partie intégrante de ce groupe de jeunes filles. Mon ami racontait qu'à partir de ce moment-là, les autres filles et elle ont toujours fait attention à n'écarter personne, quelle que soit sa différence. Elles avaient appris une leçon précieuse, éternelle. Le véritable amour peut changer les vies humaines, ainsi que la nature humaine. Mes chères jeunes sœurs, je vous prie d'avoir le courage de vous abstenir de juger et de critiquer les personnes qui sont autour de vous, et d'avoir le courage de veiller à ce que tout le monde soit intégré et se sente aimé et apprécié. J'en viens maintenant au courage dont vous aurez besoin pour être chaste et vertueuse. Vous vivez dans un monde où les valeurs morales ont été, dans une grande mesure, mises de côté, où le péché s'affiche d'une manière flagrante et où vous êtes entouré par la tentation de vous éloigner du chemin droit et resserré. De nombreuses voix vous disent que vous ne vivez pas du tout avec votre temps ou que vous avez un problème si vous croyez toujours qu'il puisse y avoir une chose telle qu'une conduite immorale. Le Seigneur a déclaré, « Malheur à ceux qui appellent le mal bien, le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres. Il vous faudra beaucoup de courage pour rester chastes et vertueuses malgré la pensée admise de notre époque. Dans le monde d'aujourd'hui, peu de gens pensent que les jeunes gens et les jeunes filles doivent rester moralement purs avant le mariage. Est-ce que cela rend la conduite morale acceptable? Absolument pas. Les commandements de notre Père Céleste ne sont pas négociables. La situation suivante du commentateur de l'actualité Ted Koppel, qui a présenté Nightline sur ABC pendant de nombreuses années, est frappante. Il a dit « Nous avons réussi à nous convaincre que des slogans nous sauveront. Si tu dois te piquer, fais-le avec une seringue propre. Ou aie des relations sexuelles quand tu veux, avec qui tu veux, mais protège-toi. » Non? La réponse est non. Non parce que ce n'est pas cool, ni intelligent, ni parce qu'on va peut-être finir en prison ou dans le service des malades du sida, mais non parce que c'est mal. Ce que Moïse a rapporté du Mont Sinaï, ce n'étaient pas les 10 suggestions. Ce sont les commandements. Ce sont, et non c'était. Fin de citation. Mes chères jeunes sœurs, gardez toujours une perspective éternelle. Faites attention à tout ce qui pourrait vous priver des bénédictions de l'éternité. Vous pouvez obtenir de l'aide de nombreuses manières pour garder la bonne perspective en cette époque permissive. L'une de ces sources précieuses est votre bénédiction patriarcale. Lisez-la souvent. Étudiez-la attentivement. Soyez guidés par ses mises en garde. Vivez de manière à mériter ses promesses. Si vous n'avez pas encore reçu votre bénédiction patriarcale, préparez-vous pour la recevoir, puis chérissez-la. Si l'une de vous a trébuché en chemin, il est possible de revenir en arrière. Ce processus s'appelle le repentir. Notre Sauveur est mort pour nous offrir ce don sacré à vous et à moi. La route peut être difficile, mais la promesse est réelle. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige, et je ne m'en souviendrai plus. Il y a un certain nombre d'années, une autre première présidence a fait cette déclaration, et notre première présidence réitère cet appel aujourd'hui. Je cite, « Nous supplions les jeunes de l'Église de mener une vie pure, car une vie impure ne conduit qu'à la souffrance, à la misère et au malheur physique. Et du point de vue spirituel, c'est le chemin de la destruction. Comme ils sont glorieux et proches des anges, les jeunes qui sont purs. Ils ont une joie inexprimable ici, et le bonheur éternel dans l'au-delà. La pureté sexuelle est le bien le plus précieux de la jeunesse. C'est le fondement de toute justice. » Fin de citation. Puissiez-vous avoir le courage d'être chaste et vertueuse. Pour finir, je vous supplie d'avoir le courage de défendre la vérité et la justice. La tendance de la société actuelle étant éloignée des valeurs et des principes que le Seigneur nous a donnés, vous serez très certainement amené à devoir défendre vos convictions. Si votre témoignage n'est pas fermement enraciné, il vous sera difficile de supporter les moqueries des personnes qui contestent votre foi. S'il est fermement enraciné, votre témoignage de l'Évangile du Sauveur et de notre Père éternel influencera tout ce que vous ferez tout au long de votre vie. Rien ne plairait plus à l'adversaire que de vous voir laisser les moqueries et les critiques envers l'Église vous amener à mettre vos croyances en question et à douter. Si vous le nourrissez constamment, votre témoignage vous gardera en sécurité. Repensez avec moi à la vision de l'île de l'arbre de vie. Il a vu qu'un grand nombre de personnes qui avait saisi la barre de fer et qui avait traversé le brouillard de ténèbres, qui était finalement arrivé à l'arbre de vie et qui avait pris du fruit, avaient ensuite jeté les regards autour d'elles, comme si elles étaient honteuses. Léhi s'est demandé d'où venait leur embarras. Il a regardé autour de lui et a vu, de l'autre côté de la rivière d'eau, un grand et spacieux édifice. Il était rempli de gens, jeunes et vieux, hommes et femmes, et leur façon de s'habiller était extrêmement raffinée. Et ils paraissaient se moquer et montrer du doigt ceux qui mangeaient du fruit. Le grand et spacieux édifice de la vision de Léhi représente les personnes du monde qui se moquent de la parole de Dieu et qui raillent celles qui l'acceptent, qui aiment le Sauveur et suivent ses commandements. Qu'arrive-t-il aux gens qui ont honte quand ils sont l'objet de moquerie? Léhi nous dit, « Et après avoir goûté du fruit, ils furent honteux à cause de ceux qui se moquaient d'eux, et ils tombèrent dans des sentiers interdits et se perdirent. » Mes chères jeunes sœurs, avec le courage de vos convictions, puissiez-vous déclarer comme l'apôtre Paul, « Je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut. » Au cas où vous ne vous sentez pas à la hauteur des tâches à venir, je vous rappelle une autre déclaration poignante de l'apôtre Paul dont nous pouvons tirer du courage. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Fin de citation. Pour terminer, je vais vous raconter l'histoire d'une jeune fille dont l'exemple de courage à défendre la vérité et la justice a traversé les siècles. La plupart d'entre vous connaissent le récit d'Esther dans l'Ancien Testament. C'est l'histoire intéressante et inspirante d'une belle jeune fille juive dont les parents étaient morts et qui avait dû être élevée par son cousin plus âgé, Mardoché, et par sa femme. Ce dernier travaillait pour le roi de Perse, et quand le roi entreprit de chercher une reine, Mardoché amena Esther au palais et la présenta comme candidate, lui conseillant de ne pas révéler qu'elle était juive. Esther plut au roi plus que toutes les autres jeunes filles, et il fit d'elle sa reine. Haman, le principal chef de la cour du roi, fut de plus en plus en colère contre Mardoché, car ce dernier ne voulait pas s'incliner devant lui pour lui rendre hommage, pour se venger. Haman convainquit le roi, d'une façon assez sournoise, qu'il y avait un peuple à part dans les 127 provinces du royaume dont les lois étaient différentes des autres et qui n'obéissaient pas aux lois du roi. Il ajouta que ce peuple devait être détruit. Sans les nommer au roi, Haman parlait des Juifs, dont Mardoché faisait partie. Avec la permission du roi de traiter cette question, Haman envoya des lettres aux gouverneurs de toutes les provinces, leur disant de détruire, tuer et faire périr tous les Juifs, jeunes et vieux, petits-enfants et femmes, le 13e jour du 12e mois. Par l'intermédiaire d'un serviteur, Mardoché informa Esther du décret contre les Juifs et lui demanda d'aller voir le roi pour plaider la cause de son peuple. Esther fut d'abord réticente. Elle lui rappela qu'il était contraire à la loi d'entrer dans la cour intérieure du roi sans y avoir été invité. La peine encourue était la mort, à moins que le roi ne lève son sceptre d'or, permettant à la personne de vivre. Face à l'hésitation d'Esther, la réponse de Mardoché fut très directe. Il lui écrivit, « Ne t'imagine pas que tu échapperas d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi, car si tu te tais maintenant, toi et la maison de ton père, vous périrez. » Fin de citation. Il ajouta ensuite cette question profonde. Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté? Esther pria alors Mardochée de réunir tous les Juifs qu'il pouvait et de leur demander de jeûner 3 jours avec elle. Ses servantes et elle feraient de même. Elle dit, « J'entrerai chez le roi malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. » Esther avait rassemblé tout son courage, et elle resterait ferme et inébranlable à défendre ce qui était juste. Prête au plan physique, émotionnel et spirituel, Esther se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi. Lorsqu'il la vit, le roi leva son sceptre d'or et lui dit qu'il lui accorderait tout ce qu'elle lui demanderait. Elle invita le roi à un festin qu'elle avait préparé et lui révéla, pendant ce festin, qu'elle était juive. Elle dévoila également le complot sournois de Haman visant à exterminer tous les juifs du royaume. La requête d'Esther d'être sauvée, ainsi que son peuple, lui fut accordée. Par le jeûne, la foi et le courage, Esther avait sauvé une nation. Contrairement à Esther, on ne vous demandera probablement pas de risquer votre vie pour vos croyances. Cependant, vous vous trouverez sûrement dans des situations où vous devrez avoir beaucoup de courage pour défendre la vérité et la justice. Encore une fois, mes chères jeunes sœurs, il y a toujours eu des difficultés dans le monde, mais beaucoup de celles que vous rencontrez sont propres à notre époque. Mais vous comptez parmi les enfants les plus forts de notre Père Céleste, et il vous a gardé en réserve pour que vous veniez sur la terre pour un temps comme celui-ci. Avec son aide, vous aurez le courage d'affronter tout ce qui adviendra. Parfois, le monde peut paraître sombre, mais la lumière de l'Évangile sera pour vous comme un phare pour vous guider. Je prie sincèrement pour que vous ayez le courage de vous abstenir de juger autrui, le courage d'être chaste et vertueuse, et le courage de défendre la vérité et la justice. Si vous le faites, vous serez un modèle de ce que doit être un croyant, et votre vie sera remplie d'amour, de paix et de joie. Je prie pour qu'il en soit ainsi, mes jeunes sœurs bien-aimées. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen.
Thank you.
Notre Père Céleste, nous sommes très reconnaissants d'être ici ensemble, près de notre prophète. Nous sommes très reconnaissants de l'expiation. Nous sommes reconnaissants pour notre nouvel idéal, qui est la vertu. Et nous te demandons de nous aider à être vertueuses. Nous te demandons de nous aider à nous préparer pour aller au temple et de nous aider à nous aimer les unes les autres. Nous te remercions pour toutes nos bénédictions et nous t'aimons et nous te faisons cette prière. Au nom de Jésus-Christ, Amen.